Astronaut Podcast. Palmis Production. Vivin Kat. Francophonie, vous ne glaubt pas.
Messieurs, bonjour, Kwe. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, eh bien, nous recevons alors là deux invités de marque, messieurs, dames. Si vous ne les connaissez pas encore, c'est bien parce que vous ne suivez pas la politique municipale au Québec. Dans un premier temps, nous sommes honorés de recevoir alors la première magistrate de Côte-des-Neiges, Notre-Dame de Grâce. Nous avons cette opportunité d'avoir aujourd'hui avec nous, oui, la mairesse de Côte-des-Neiges. Alors là, attendez un peu pour que je vous la présente. Je dis bien, Gracia Kasoi Katawa. Ah ouais, elle est avec nous. Et maintenant, alors, la dernière, mais non la moindre, il s'agit de la première magistrate de Montréal, celle qu'on considère comme le socle de la métropole québécoise. Messieurs, dames, on l'a connue comme l'homme de la situation lors de sa grande campagne électorale qui l'a portée au pouvoir pour la première fois. Eh bien, aujourd'hui, c'est la troisième fois qu'elle est à Coconut Podcast avec nous. Nous sommes plus qu'honorés de recevoir à l'émission, je dis bien, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que la mairesse de Côte-des-Neiges, je redis, Gracia Kasoi Katawa, messieurs dames. Mesdames, waouh, écoutez, que d'être avec vous aujourd'hui, c'est tout un honneur. La première question qu'on va vous demander, on va y aller en respectant le protocole. Comment ça va, mesdames? Et je vais m'entretenir avec la mairesse de Montréal, Madame Plante. Comment allez-vous?
Ben, ça va bien. Surtout après une présentation comme celle-ci. Moi, je veux qu'à chaque fois, on me présente comme
ben,
ça.
Écoutez.
D'être au Coconut Podcast, ben, ça me fait, c'est toujours un grand plaisir. Et cette fois-ci, hein, je suis en duo.
Oui.
Avec Gracia, ma collègue, que j'apprécie beaucoup. Qui est dans notre équipe depuis 2021,
mais là, qui vient d'accéder au comité exécutif, des nouvelles fonctions, en ressources humaines, tout ce qui est racisme. Écoutez, vous avez du pain sur la planche, là. Comment allez-vous, madame la mairesse?
Mais je vais très bien. J'avais entendu parler de votre introduction, mais là, la vie, honnêtement, c'est quelque chose. Puis je suis vraiment contente de faire cette entrevue. C'est ma première fois pour notre podcast, puis je suis contente de vous accompagner de la mairesse de Montréal.
Ben, la première, mais non la dernière, car nos auditrices et auditeurs doivent savoir que vous serez avec nous durant le mois de mars pour la semaine d'action contre le racisme. Alors, on va se revoir. Écoutez, mesdames, très rapidement, on vous a demandé comment vous alliez. On est en plein mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Madame la mairesse, Madame Plante, que représente le mois de l'histoire des Noirs pour vous, sachant que à chaque année, vous nous faites des allocutions qu'on peut retrouver sur Internet, vous êtes impliqué avec la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. On aimerait vous entendre.
Oui. Ben, je trouve ça extrêmement important qu'à chaque année, on ait un mois complet pour pouvoir souligner les contributions, de pouvoir s'éduquer, pour pouvoir célébrer tout ce que la culture noire et les communautés racisées de Montréal, mais aussi à travers le monde, parce que la programmation, elle est très diverse quand
très
même.
Diverse.
Et je trouve ça extrêmement important. Je ne vous cacherai pas que je rêve du jour où on sera plus à, on n'aura plus besoin de moi.
Intéressant,
super. Ça va être, comment dire, encore plus partie prenante de notre vie à tous et toutes. Mais c'est vrai que de célébrer, j'allais dire l'expérience, mais encore une fois, la créativité, puis des communautés noires de Montréal, pour moi, ça joue un rôle absolument important pour les Montréalais et Montréalaises, puis pour tout le monde aussi.
Pour tout le monde. Et tout en votre honneur, comme on dit, les babines suivent les bottines, ou les bottines suivent les babines, vous nous avez présenté une équipe comme jamais issue des communautés ethnoculturelles, mais surtout de la communauté noire. Écoutez, votre présidente au conseil de ville, hein, là, Madame Mouélé, qu'on a rencontrée ici même à la maison des citoyennes et des citoyens, vous participez à plusieurs reprises, on vous a vu au Gala Dynastie, vous célébrez allègrement la culture noire. Le président de votre formation politique, Monsieur Bernier, entre autres également, issu des communautés noires, Coconut Podcast tient à vous dire félicitations pour ce travail. Vous êtes passé des paroles aux actions, à l'action, et aujourd'hui, ben, on a ce résultat.
Hein. Un magnifique résultat, puis ça montre quand il y a une volonté réelle, parce que je pense que toute la société doit être beaucoup plus diverse, elle doit être plus représentative de la population montréalaise, mais à tous les niveaux, à tous les domaines. Mais c'est certain que quand il est question d'être élu, on représente le peuple, mais aussi, il ne faut pas minimiser l'impact que ça a d'avoir, moi, dans mon cas, première mairesse de Montréal.
Oui, tout à fait.
Dans ce cas-ci, pour Gracia, une grande femme à la tête de l'arrondissement le plus populeux et première mairesse racisée, mère noire. Et donc, c'est important parce que c'est aussi, c'est pas juste du symbole, mais ça montre à plein de gens que c'est possible.
Que c'est possible.
Et de même façon que Barack Obama, mon Dieu, a éveillé des consciences incroyables en disant un premier président afro-américain, mais c'est impressionnant.
L'audace de l'espoir.
On
aurait dû comparer. Écoutez, vous êtes en plein dans ces traces-là, oui.
C'est important. Il faut pouvoir démontrer que tout le monde a sa place, tout le monde peut devenir un élu. Et nécessairement, c'est au parti politique, mais aussi à la ville, d'être accueillant. Et de là, l'importance de la politique sur de reconnaître que oui, il existe du racisme et des discriminations systémiques pour venir briser les barrières systémiques qui peut-être empêchent des gens de dire en moi, non, moi, c'est pas pour moi l'hôtel de ville. Ben non, c'est pour toi l'hôtel de ville, mais il faut qu'on travaille.
J'ai jamais eu l'occasion de le dire à la mairesse, mais ça fait vraiment toute une différence. C'est-à-dire que moi, lorsque on m'a approchée et que j'ai vu qu'il y avait des candidats issus des communautés noires qui avaient été désignés pour être candidats dans le district qui
vote Projet Montréal depuis plusieurs années. Mm-hmm. Moi, j'ai dit, mais en fait, la mairesse de Montréal est sérieuse dans sa démarche. Et ça m'a donné envie de me lancer, notamment. Parce que quand on est des têtes de réseau ici, des communautés racisées, on se fait solliciter quand même régulièrement pour se lancer en politique, mais quand tu vois que tu vas être la seule, je veux dire, je ne sais pas comment Mme James a fait à son époque.
Oui, c'est vrai. Ça devait être très difficile. Bien sûr, bien sûr. Ah, absolument.
Donc, c'est un cadeau, honnêtement. De un, ça m'a, je me suis dit, mais j'ai envie de me lancer dans une équipe qui y croit pour vrai. Mm-hmm. Puis maintenant que je suis élue, mais c'est un cadeau inestimable que d'avoir des collègues à qui je peux parler de choses qui peuvent paraître banales pour d'autres, mais que nous, on comprend à quel point c'est important. Ouais, c'est vraiment, ouais. C'est un cadeau, vraiment. C'est un cadeau, puis je suis très chanceuse de me lancer en politique dans ce contexte-là.
Toi aussi, t'es un cadeau pour nous.
On est content de l'entendre, et nos auditrices, auditeurs doivent le savoir. Vous êtes née, vous avez grandi à Québec, hein, ouais. C'est bien ça.
Je suis née au Congo, hein, même si Lingala est...
Kinshasa?
Oui, Kinshasa.
Au Congo, Kinshasa, anciennement le Zaïre, ouais, voilà. Hein, le pays de Patrice Lumumba, entre autres. Et ce qui est intéressant, vous allez quitter Québec parce que vous étiez dans cette quête de diversité. Ouais. Vous vouliez travailler dans un environnement où vous retrouveriez de la diversité. Oui. Alors, vous allez quand même remplir cette mission. L'hôpital juif de Montréal.
Dans Côte-des-Neiges.
C'est clair.
Vous choisissez l'un des arrondissements où l'on retrouve l'une des plus grandes diversités.
Absolument.
Au Canada.
Ouais, ah ouais. Au Canada.
Au Canada.
Ouais.
Donc ça, c'est pas peu dire. Après, vous allez travailler à la STM, un lieu où on retrouve énormément de diversité. Ouais. Et là, la cerise sur le sundae, vous allez être administratrice, même élue, à l'ordre des infirmières et des infirmiers du Québec.
Oui, en fait, j'étais à l'ordre, j'étais au CA de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec avant de me lancer. Oui. Puis c'est notamment ces expériences-là qui m'ont amené mes compétences en gestion que j'utilise aujourd'hui. Puis c'est comme mairesse d'arrondissement, bien, la mairesse m'a aussi nommée au CA de la STM à ce moment-là. Puis, donc, ça amène, c'est vraiment multiples occasions d'amener une perspective différente autour d'une table de décision. Puis c'est pour ça que parfois on se dit, ben, tu sais, pourquoi faire l'effort de mettre des personnes issues de la diversité dans des postes, dans des candidatures, à la ville de Montréal, par exemple, ben, c'est important parce qu'on se retrouve sur des tables de décision puis on amène une certaine perspective de différentes Montréalaises, Montréalais.
Absolument.
Très rapidement, vous êtes de la communauté noire.
Oui.
Vous arrivez quand même du vieux continent, le continent mère. Voir qu'on célèbre la culture noire en un mois. Pourtant, vous, en Afrique, vous la célébrez à l'année longue. que représente le mois de l'histoire pour vous, Madame la mairesse, Madame Katawa? On vous écoute.
Ben, comme Madame la mairesse l'a mentionné, c'est bien d'avoir un mois de l'histoire des Noirs un mois dans l'année, mais en effet, c'est quelque chose qu'on s'efforce de... C'est une volonté, célébrer la culture noire, puis les accomplissements des communautés noires, c'est quelque chose qu'on s'efforce de célébrer tout au long de l'année dans l'équipe de la mairesse. Moi, j'ai grandi au Québec, hein. Donc pour moi, c'est vrai que plusieurs personnes qui ont grandi sur le continent africain, pour eux, c'est peut-être pas spécial, mais pour moi, ayant grandi au Québec, à Québec, où j'étais souvent la seule noire quelque part, c'est vraiment important. De célébrer le mois d'histoire des Noirs. Et je dirais que Montréal, on a donné l'exemple à d'autres villes.
Oui, c'est vrai.
Longueuil a aussi une programmation cette année.
Mais Repentigny, plein d'endroits.
Beaucoup s'inspirent de Montréal. Donc, merci beaucoup au leadership de la mairesse. Là,
Madame la mairesse, écoutez, vous recevez tout cet amour,
ces
fleurs.
J'aime ça, ça fait du bien.
Ben, écoutez, vous travaillez fortement. C'est pour ça que vous êtes à Coconut Podcast. Nous sommes... Ce média du positivisme.
De l'amour.
Madame la mairesse, la seconde question qu'on va vous poser, vous venez de nous dire l'importance que représente le mois de l'histoire des Noirs pour vous, surtout l'apport de la gente féminine au sein de votre équipe. Que représente aujourd'hui, en 2024, être femme en politique, et je vous dirais en politique québécoise? Très rapidement, dans les derniers jours, on a essayé de vous faire porter l'odieux du recul de la langue française à Montréal. Par la suite, on sent que sur la colline parlementaire à Québec, on vous invective, voulant encore vous faire porter certains odieux. Même en tant que citoyen, on regarde, on se dit, ben là, il me semble que... On pousse un peu pas mal, là. on aimerait vous entendre.
Oui,
on regarde Mme Kamala Harris aux États-Unis. On n'a qu'à penser à votre collègue qui siège encore au conseil municipal, Mme Olivier. On dirait que ce n'est pas le même traitement pour un homme et pour une femme en politique. Nous avons deux grandes femmes. Deux grandes politiques, comme on dit en France.
C'est vrai, on dit ça.
Voilà. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus, votre ressenti? Vous-même, on sait qu'au mois de décembre, il y a eu une petite fatigue de la part de notre mairesse. Est-ce que ces attaques à répétition ont peut-être fatigué notre mairesse, entre autres également? Et même la famille, vos enfants, monsieur, on vous écoute.
Bien, écoutez, c'est sûr que quand on les nomme un après l'autre, ces différents événements qui se prennent dans des contextes très, très différents. Vous savez, au-delà d'être une femme, j'ai envie de dire que c'est surtout la mairesse de la métropole, ces temps-ci, peut-être que certains essaient un peu de brasser. Mais vous savez, moi, je suis extrêmement fière d'être la mairesse de la métropole multiculturelle du Québec.
Avec un budget de 7 milliards
Exactement. De dollars. Exactement. Et en plus, on est la métropole francophone des Amériques. C'est un titre qui est magnifique, que personne d'autre en Amérique
du Nord. On vous le doit, ce titre.
Ben oui, on me l'a conseillé. Puis je suis donc bien une bonne idée. Alors, je l'ai pris. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est important de défendre la métropole avec le fait qu'on est francophone, d'abord et avant tout, mais aussi que... Bien, on est cosmopolite, on s'occupe de la santé économique du Québec, on doit s'occuper de tout le monde. Donc, pour moi, je vous dirais que c'est surtout ça. Et sinon, bien, définitivement, je pense que... Moi, je rappelle toujours que La raison pour laquelle il faut avoir toujours plus de femmes en politique et de personnes issues des communautés culturelles ou de personnes racisées, c'est parce qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de modèles pour pas qu'on se dise « Ah, ce modèle-là, par exemple, elle, je l'aime pas. » Mais c'est pas… Faut tasser ça de côté. Ouais, ouais. Faut juste… Plus on va avoir de modèles, plus on va avoir des modèles de leadership qui seront plus connectés à la couleur de la peau ou à notre genre. Ça va juste être une personne qui fait de la politique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, pour moi, c'est vraiment ça et c'est ce qui m'a motivée, encore une fois, si je ramène à le travail qui a été fait au sein du comité exécutif, où on est 75 % des femmes, 35 % issues de, comme je dirais, de la diversité. C'est, on veut, je veux avoir plein d'exemples pour arrêter, pour sortir de cette idée de c'est quoi le modèle du politicien.
Du politicien. Hein? Non, vous avez raison.
Il faut sortir de là.
Puis ça, c'est intéressant. À partir de janvier 2024, on sait que vous avez toute une équipe au niveau des relations de presse, l'équipe de communication. On vous a vu sur le terrain comme pas possible, mais en mode quasiment campaigner.
Ah oui?
Vous êtes une femme de terrain.
Ah ben là, moi, oui.
Vous vous trouviez. Ben là, non, mais écoutez, vous avez fait plusieurs événements, parce qu'on vous voit avec des jeunes dans les écoles. Puis là, on dit, OK, on retrouve le sourire de notre mairesse.
Ouais.
Comme vos combats, je vais vous montrer.
Mais
est-ce
oui,
que vous
parce
êtes
que.
Oui, c'est ça.
Ça redonne de l'énergie, je pense.
Ben oui, c'est ça, exactement.
Si ça permet de. Puis, tu sais, Mme la mairesse pourrait partager au niveau de la métropole, mais en arrondissement, être sur le terrain, ça permet d'être en contact avec les citoyens, de prendre le pouls de ce qui se passe, de comment ils se sentent, puis ensuite d'utiliser ça pour mettre en œuvre nos politiques publiques. Moi, ça m'énergise, là, être sur le terrain.
Absolument, absolument. Puis j'ai envie de dire que, de la même façon que comme mairesse de métropole, j'en couvre beaucoup, hein, transport, habitation, la crise des vulnérabilités,
l'itinérance,
il y a plein de choses. Mais honnêtement, d'abord et avant tout, moi, j'ai choisi le municipal pour être proche du monde. Et je suis la mairesse aussi de Ville-Marie, dans mon arrondissement. Alors, aller voir le monde, c'est la base quand on est au municipal. Et c'est ce qui fait, je pense, que c'est le meilleur niveau de gouvernance. Parce qu'on l'a direct, là, ce qui
direct,
se passe,
direct,
le son. Là. Les gens viennent nous voir en conseil d'arrondissement, en conseil de ville, ils nous disent les vraies affaires. C'est pas toujours le fun, c'est pas toujours confortable. Quand on se promène dans la rue, je reçois beaucoup d'amour, mais j'ai reçu des commentaires aussi, des préoccupations, des questions, puis je me dis, c'est correct. C'est ça aussi, c'est ça en fait, à la base, d'être élu au niveau municipal. Donc, moi, je parais comme toi, Gracia, j'en tire beaucoup d'énergie.
Mais Mme Katawa, vous vous inspirez énormément de Mme Plante. Mais vous-même, vous avez une formation qui fait que vous allez au-devant, vous allez vers les gens. Vous êtes cette infirmière clinicienne. Ma sœur, elle est infirmière praticienne. Oui. Là, j'ai dit, c'est quoi ça, infirmière clinicienne? Puis elle m'a dit, ben, elle travaille en santé mentale, entre autres. Puis là, je me suis dit, ah ben là, je comprends.
Ouais.
Puis vous vous déclarez comme cette mairesse qui n'oublie pas son cursus d'infirmière. Vous l'utilisez sur une base quotidienne. Vous, en tant que femme, être en politique en 2024, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et surtout, est-ce que vous, vous trouvez ça relativement facile, puisque vous avez ce parcours, travail dans les urgences, sur les étages, en clinique.
Ouais.
On vous écoute, Madame la mairesse.
Je pense que le parallèle qu'on peut faire avec la profession infirmière, puis je tiens à dire, je suis toujours infirmière.
Okay.
On n'est pas habitué de voir des infirmières en politique, mais ça fait partie d'un cursus de carrière possible comme infirmière. Et le lien avec le rôle des femmes en leadership puis le féminisme, c'est que les infirmières portent sur elles le système de santé, honnêtement. Mm. Et cette énergie féminine, j'ai envie de dire, cette façon de soigner la personne et sa famille dans sa globalité, bien, c'est la même, c'est avec la même intention, en fait, que je suis mairesse, avec la même posture que je suis mairesse. Donc, lorsqu'un citoyen vient me voir avec une problématique, bien, je regarde la problématique sur tous les angles, je regarde l'humain dans sa globalité, je regarde, la mobilité, mais je regarde aussi la santé mentale, même si ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas sous ma compétence, mais je peux ensuite aller porter la voix du citoyen puis dire, bien, tel élément qui est dans ma compétence municipale, mais ça a un impact sur la santé mentale des populations. Donc, gouvernement du Québec, vous devriez le savoir, par exemple. Donc cette capacité de voir l'humain, les familles, les communautés dans leur globalité, c'est quelque chose que je tire de la profession infirmière, mais je pense que c'est quelque chose qui vient du fait d'être femme et cette énergie que ça fait du bien aussi d'être avec plusieurs femmes au pouvoir parce qu'on a une façon de planifier la ville qui tient compte de l'humain, des communautés dans leur globalité. On pense à aujourd'hui, mais on pense aussi à demain. Je crois que ça, c'est, ça, je crois hein, que ça fait partie de l'énergie féminine. Puis ça, c'est quelque chose que je tire aussi de ma profession.
Mais j'ai envie de dire, Gracia, que parce qu'on disait comme l'énergie féminine, je suis d'accord avec toi, tu sais, cette bienveillance-là, cette, une vision holistique. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on devient mairesse, que ce soit de la ville ou de l'arrondissement, c'est qu'on décide de s'entourer de personnes, dont des hommes, qui ont ces valeurs-là, puis qui ont peut-être envie d'être plus dans
Monsieur
ce genre
Doré,
d'énergie-là.
Entre autres.
Mais c'est ça,
oui,
c'est ça.
Oui,
donc,
Monsieur
je veux
Rabouin,
quand même.
Entre
c'est
autres.
C'est fait pour ça qu'il faut avoir des femmes patronnes.
Moroz, hein, entre autres. Mais dans chacune de vos équipes respectives, j'ai parlé de Monsieur Doré, qu'on connaît depuis, qui est dans Verdun, je pense.
Dans Sud-Ouest.
Sud-Ouest, oui, voilà.
À côté.
Vice-président au comité exécutif.
À l'habitation,
oui, entre autres. Vous-même, dans Côte-des-Neiges, vous avez Monsieur Sonny Moroz. Vous avez M. McQueen, j'oublierai pas quand même les deux autres collègues, Mme Popeanu et Mme Souria,
il y a Mme Valenzuela aussi. Popeanu,
je me rappelle.
Je suis impressionnée.
On
est dans mon arrondissement même.
On va faire quelques interviews encore.
On va faire un test.
On reparlera à M. Bernier. Mais très rapidement, est-ce que vous trouvez que être leader d'un conseil d'arrondissement en tant que femme, il y a plus de pression qui vous incombe ou le support des membres de votre équipe que je viens de nommer vous permet de vraiment accomplir la tâche qui est la vôtre? On vous écoute.
Écoutez, je crois que, voilà, je pense que comme femme en général, on grandit avec, avec certains défis, notamment on veut s'assurer de tout bien faire tout le temps. Là, je pense que c'est une pression qu'on se met. Comme mairesse d'arrondissement, pour moi, je considère que la vie des conseillers locaux est extrêmement importante parce que, bien que moi, je sois sur le terrain, mais ils sont des conseillers des districts locaux, donc c'est important de prendre le pouls de eux, comment ils vivent, en fait, leur district. Mais on a aussi une équipe, j'ai aussi une équipe de cabinet, puis ça, je veux le partager, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines, c'est-à-dire que j'ai constitué une équipe de cabinet aussi qui est très diversifiée. C'est quelque chose qui a été important.
Très important.
C'est aussi ici à la ville.
Oui.
Donc, vous m'inspirez beaucoup, Madame Plante.
On s'inspire.
Très rapidement, être femme en politique, on doit faire face à certaines crises. Madame la mairesse, vous avez fait face à la crise de la COVID-19 que vous avez relevée haut la main. Merci. Vous étiez la première qui était à Pierre-Éliott Trudeau qui informait les voyageurs avant même que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités, tout en votre honneur. Madame Katawa, Madame la mairesse Plante, on sait qu'il y a eu des événements fâcheux, incompréhensibles pour le reste de la population, que vous avez fortement dénoncés. Il y a un conflit qu'on retrouve en Terre Sainte qui vient des fois vouloir s'exporter au Canada.
Oui.
Des écoles, je pense bien dans votre arrondissement, ont été la cible de coups de feu. Comment avez-vous réagi? On sait que M. Sonny Moroz, lui-même, issu de la communauté juive, vous êtes très proche de votre conseiller municipal. Quelle a été la réaction de notre mairesse de Côte-des-Neiges? Question de montrer à nos auditrices, auditeurs, que par moment, on fait face, en tant que femme en politique, à des situations de crise, qu'on se doit de garder son calme et de savoir comment affronter la chose. Je vous écoute, Mme Katawa, par la suite, Mme Plante.
Écoutez, mon premier réflexe a été d'aller sur le terrain. Puis on travaille vraiment en grande collaboration avec les équipes du cabinet. Donc, j'ai été sur le terrain avec la mairesse, avec Alain Vaillancourt. Donc, c'était important d'être là encore une fois pour prendre le pouls. Je voulais savoir comment les gens se sentaient, qu'est-ce qui était arrivé, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans l'immédiat pour soutenir la population en général. Donc oui, les écoles, la communauté juive qui ont été touchées pour ces deux épisodes-là, mais je me suis assurée d'aller voir aussi la communauté musulmane pour savoir comment ils se sentent. Donc c'est vraiment ça le secret. Pour
Absolument.
Moi, le terrain, c'est le mot-clé. Parce qu'après ça, on peut prendre le pouls puis demander finalement aux équipes d'agir par rapport aux inquiétudes de la population.
Excellent, excellent.
Oui, absolument. Puis je pense que c'est pour nous, notre rôle, c'est aussi de rappeler que tout le monde est bienvenu et a sa place à Montréal. Absolument. Encore une fois, peu importe le signe religieux ou la religion qu'on a, encore une fois, je ramène à la couleur de la peau, du pays d'où on vient, peu importe, tout le monde est bienvenu à Montréal. Et les discriminations n'ont pas sa place. Alors, on a cette responsabilité de rassurer la population, de poser des gestes concrets lorsque c'est nécessaire, comme par exemple avec les écoles juives qui ont reçu des tirs. Tout de suite, avec le SPVM, on a ajouté des effectifs pour s'assurer, envoyer un message fort de présence, mais aussi de pouvoir faire les enquêtes nécessaires. Et oui, dans ce cas-ci, on parle avec la communauté musulmane parce que l'islamophobie n'a pas sa place et bien sûr avec la communauté juive parce que l'antisémitisme n'a pas sa place. De la même façon, je me rappelle, pendant la COVID, la communauté asiatique avait été
victime.
Voilà,
oui, tout à fait,
et ça non plus. Alors, Montréal, là, on était dans un endroit bienveillant, ouvert, et ces valeurs-là sont extrêmement importantes pour les Montréalais, puis on s'en rend compte, les Montréalais veulent la paix.
La paix.
La paix pour entre nous. C'est pas facile ce qui se passe au Proche-Orient, c'est évident, mais il faut s'assurer qu'ici à Montréal, ça se continue dans une démocratie, de façon respectueuse, et puis de soutenir les familles, celles et ceux qui ont des gens qui sont là-bas.
Mm-hmm. Écoutez, vous répondez comme vous aviez répondu en plein moment de cette crise, de manière transparente, et on sent que vous êtes déterminée à lutter contre l'islamophobie et l'antisémitisme.
Absolument.
Tout en votre honneur, mesdames. Vous anticipiez la question suivante,
ah oui?
Très rapidement.
Ah bon?
vous dites que Montréal, vraiment, c'est cette terre d'accueil.
Oui, oui.
On veut
oui.
que Montréal reçoive, où il fasse bon vivre pour tous. On a cette question aujourd'hui qui occupe l'espace médiatique au Québec. Est-ce qu'on a trop d'immigrants? On a-tu trop d'immigrants temporaires? On a-tu trop d'étudiants étrangers? Il y a une salve qui a été portée par rapport à l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers et même ceux venant des autres provinces a été ramenée. On sent que l'administration municipale a quand même entendu les recteurs d'université et vous avez dit, on ne peut pas. On ne peut pas laisser ça comme ça, il faut faire certains aménagements. Vous, c'est quand même nous qui les recevons à Montréal, les nouveaux arrivants qui arrivent par les différents points d'entrée à l'aéroport aujourd'hui. Il n'y a plus Roxham, mais ils arrivent à l'aéroport. Est-ce qu'on a trop d'immigrants? Et est-ce que c'est du travail de l'administration municipale de se substituer au gouvernement provincial? Vous avez 45 secondes pour répondre à cette question.
Non, en fait, ça va être assez simple parce que moi, je refuse d'entrer dans les débats de chiffres parce que je trouve qu'on finit par perdre les visages. C'est comme si on parlait de je ne sais pas, de bonbons. Non, c'est des gens. On parle de personnes qui, depuis longtemps, on contribue tous à Montréal, au Québec, au Canada. Donc moi, les débats de chiffres, là, je laisse ça au fédéral et au provincial. De toute façon, c'est eux qui ont la capacité d'établir des barèmes. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que la Ville de Montréal, on est extrêmement fiers que les nouveaux arrivants viennent à Montréal. On est contents. Mais ce qu'on veut, c'est bien les accueillir, ça veut dire de l'habitation, travailler avec le gouvernement du Québec, d'avoir des façons…
Le gouvernement fédéral aussi.
Oui, oui, absolument. Puis tout ce qui travaille, tous les éléments au niveau de la francisation, comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui arrivent ici, puis c'est souvent un parcours du combattant, là, ont le temps de se trouver un travail, mettre les enfants à l'école, mais aussi apprendre le français pendant que tout ça se fait. Il faut outiller la population. Moi, c'est ça que je veux. Et Montréal, dans tous les cas, on va être cette ville qui profite, mais au sens où, quand on regarde Montréal, la façon dont on s'est construit, c'est avec les communautés. C'est ça, la force de Montréal.
Et vous anticipiez, du moins, vous voyez venir la chose, car dans l'arrondissement de Mme Katawa, vous avez ce projet qui va quand même donner un coup de pouce à ce problème de logement.
Oui, oui.
L'éco-quartier Namur Hippodrome, Blue Barnet pour les anciens. 7000 logements qui vont être créés par l'espace La Traversée. Hein, vous avez un partenariat. Mais quand même, 4000 logements, donc 2000 abordables et 2000 de logements sociaux à prix modique. Est-ce que, quand même, vous tentez de répondre
Oui.
Cette problématique.
Ouais. Et pas seulement avec Namur Hippodrome. C'est Namur Hippodrome, c'est un quartier qu'on est en train de développer à Côte-des-Neiges-Indigie. Puis on va revenir très bientôt à la population avec une vision là, plus spécifique. Mais on travaille, la communauté nous a partagé leur vision pour ce nouveau quartier-là depuis plusieurs années. Avec consultation là-dessus. Donc oui, ça va être une des réponses à la crise du logement. Mais je veux dire, la mairesse, je pense que chaque semaine, elle est partout à travers la ville pour partager les bons coups là, qu'on fait. Là,
vous venez d'inaugurer 200 logements pour les personnes itinérantes. Là.
Oui, oui, ça, c'est incroyable. C'est ça. Mais on s'entend, des besoins, il y en a pour plusieurs catégories, de la classe moyenne,
ce qu'on dit « lower ».
Oui, c'est ça. J'essaie de trouver le mot en français. Là, ça va m'en revenir. Mais donc, la classe moyenne de la misère à se loger, de là l'importance du logement pérenne, du logement abordable, mais que nous, on veut rendre pérenne. Parce qu'un des problèmes, c'est qu'au cours des dernières années, il s'en est fait du logement abordable, mais il n'y avait pas de mécanisme. Alors, il ne l'est plus abordable. Alors, nous, on décide d'aller plus loin, de forcer, entre autres, les promoteurs immobiliers à avoir du logement abordable. Et le logement social, vous en avez parlé, que ce soit les personnes en situation d'itinérance, mais c'est aussi du logement social pour des familles à faible revenu, des femmes victimes de violences conjugales, des aînés vieillissants. Parce qu'on le voit dans les refuges, malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui, à cause qu'ils n'arrivaient plus à payer leur loyer, se retrouvent itinérants. Alors ça, c'est d'une grande tristesse. Nous, ce qu'on veut, notre administration, c'est de ramener le fait qu'un toit au-dessus de sa tête, c'est pas un bien marchand, là. C'est pas comme aller s'acheter un chandail puis une auto, là. Non, c'est un droit fondamental.
Ouais, c'est du bon tout ça.
Non, c'est vrai,
puis c'est important, puis c'est une valeur qu'on doit tous
comprendre. Oui, on doit le défendre.
Exactement.
Tout le monde.
En tout cas, ça a l'air d'être un leitmotiv à Projet Montréal. Ça vous anime. Oh yeah! On aime ça. Pour terminer, les filles, je pense qu'on va revenir. De toute façon, Mme Katawa, on se revoit.
Mais oui, vous allez rejaser plus, vous autres!
Très rapidement, il y a une question qui titille les Montréalaises et Montréalais. Je pense que vous me voyez venir. Malgré que pour certains, c'est l'Eldorado. L'écoquartier, ça a l'air que vous allez faire une place au transport mobile.
Oui.
Alors, vous me voyez venir. Les pistes cyclables.
Oui.
Il y a deux écoles de pensée qui s'affrontent dans la ville. On a un nouveau membre au comité exécutif qui s'occupe des grands parcs.
Oui.
Puis, donc là, ça va être intéressant. Peut-être qu'ils vont toucher. Vous avez même nommé un conseiller associé.
Oui, exactement. Il est renseigné.
On fait nos recherches à Coconut. On a fait une équipe. On a vu qu'elle est sur Instagram ou autre. Des jeunes, des fois, qui peut-être n'ont pas bien lu le message que c'était pour leur avenir que c'était fait. Les pistes cyclables, les gens, Madame la mairesse, les gens qui utilisent encore leur voiture, ils disent, ben là, il y a trop de pistes cyclables en ville. Mais pourtant, il y a moins de neige, les gens les utilisent, les pistes cyclables, à l'année longue. Pas pire, ça. Puis les gens ont moins de moyens. Alors, ça permet, ça offre une voie de transport alternative et à très faible coût.
Oui, absolument.
On aimerait vous entendre. Est-ce que vous entendez cette grogne quant aux pistes cyclables?
Mais oui. Puis, tu sais, les gens il va toujours avoir des voitures, là. Les gens vont utiliser leur voiture. L'idée, c'est plus qu'il n'y en ait plus. Mm-hmm. Dans la mesure d'une personne à mobilité réduite, une famille qui va mener les enfants au hockey là, avec les poches, là, je veux dire, à un moment donné, là, c'est ça. Honnêtement, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas du transport collectif partout, on ne pourra pas dire aux gens « Hey, ça va faire l'auto ». Non, quand même. Mais les pistes cyclables, je pense que ça polarise, mais il ne faut pas oublier que sur l'ensemble des 10 000 km de voies publiques, 10 000 km, 1% c'est des pistes cyclables protégées, comme sur Saint-Denis. Alors, c'est une perception, mais nous, on est déterminés, malgré, tu sais, il faut discuter, il faut convaincre, il faut expliquer ce que je viens de faire. Mais
Madame
Lalonde,
dans Villeray, elle a fait tout un travail de vulgarisation.
Exactement. Et donc, pour nous, on va continuer à le faire en consultant, mais on ne va pas arrêter parce que vous l'avez tellement bien dit. C'est une façon de se déplacer parmi d'autres. C'est sécuritaire et il n'en demeure pas moins que la direction de la santé publique, quand même, qui parle de la qualité de vie des Montréalais et Montréalaises, nous a dit... Madame Plante, Madame la mairesse, votre administration fait du bon travail, mais il y a plein de secteurs qui n'en ont pas, Montréal-Nord, ouais, Parc Extension, et comme quoi le vélo, c'est un outil démocratique. C'est, si vous l'avez dit, c'est pas cher.
Pas cher.
Alors, il faut qu'on trouve la place pour faire des pistes cyclables. Et finalement, quand il y a des pistes cyclables, en général, ça apaise la circulation.
Survivre,
ça, c'est plus sécuritaire pour les tout-petits puis pour nos personnes aînées.
Hein? Puis surtout, nos piétons,
ben oui, ben oui.
Le déplacement, c'est plus sécuritaire. Madame Katawa, pour terminer, vous dites que vous allez nous arriver avec davantage de détails quant à ce projet pharaonique. Hein?
On va être ensemble, en plus, pour le faire.
Madame la maire, ça veut être là, à cette annonce-là. Les pistes cyclables dans cet éco-quartier Namur Hippodrome, ouais. Est-ce qu'on va garder la piste où ce qu'elle est fou courait, puis
mais non, mais
on va aller faire du vélo, un vélodrome?
Wow, ça coûte cher!
Ça coûte cher!
Non, mais en fait, c'est sûr qu'on planifie l'éco-quartier Namur Hippodrome. Tu sais, on le planifie pour les 50-100 prochaines années, ouais. Ce quartier-là. Donc, s'assurer qu'il y ait du transport actif sécuritaire dans Namur Hippodrome, du transport collectif ouais. comme
on genre dit, un tramway.
Genre, mm-hmm. Hein? Un tramway, genre. Ça fait partie, en fait, là, de la vision. On va partager à la population sur le quartier Namur Hippodrome. J'ai très, très hâte.
Moi aussi, j'ai très, très hâte.
Moi, j'ai déjà hâte à notre entrevue, là, avec vous. Vous nous mettez l'eau à la bouche.
Parfait,
écoutez,
ça.
Mesdames, toute une entrevue.
Ben, merci.
Voilà, en duo, vous devriez faire ça davantage. C'est dynamique, ça. Hein? Tibi-boulala, c'est bon, ça. Très rapidement, vous allez vous adresser à cette caméra,
oui.
Chacune d'entre vous. Et Madame Katawa, dans un premier temps, vous avez eu le dernier mot, hein, le protocole, Madame la mairesse. En 15 secondes, pourquoi on devrait voter pour Projet Montréal aux prochaines élections de 2025? On vous écoute, vous regardez cette caméra, Madame Katawa. En 15 secondes, voilà.
Vous devriez continuer à faire confiance à notre administration parce qu'on transforme la ville avec vous pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est très concret. Moi, c'est ce qui m'a amenée à Projet Montréal. J'ai vu les changements dans mon quartier, puis je me suis dit, j'ai envie de contribuer. Puis je le fais avec grand plaisir et avec fierté. Je vous remercie de votre confiance, puis on va continuer à travailler très fort pour vous.
Et avec classe, franchement.
Oui, oui.
Pour terminer, la première magistrate de Montréal, Madame Plante, pourquoi on devrait vous reporter au pouvoir? Vous allez écrire l'histoire si cela se réalise. La parole est à vous, vos commettants et commettants vous écoutent. Vous en avez l'habitude dans les caméras.
Oui, c'est vrai, mais quand même, ben, écoutez, moi j'ai surtout envie de dire que notre équipe, depuis maintenant 2017, on a une vision qui est claire et pour laquelle les Montréalais nous ont choisis. Ils adhèrent au fait qu'on veut transformer la ville pour la rendre plus verte, plus sécuritaire pour les enfants, pour les personnes aînées, pour tous les utilisateurs de la route, autour des écoles, partout. C'est ça qu'on fait. On a dit aussi qu'on allait faire plus d'options de transport collectif. La ligne bleue s'en vient, puis l'habitation. Alors, j'ai envie de dire qu'avec notre équipe, les gens savent ce qui s'en vient. Ils savent qu'on ne va pas tout d'un coup partir sur un bord ou l'autre parce que en fonction de où le vent souffle. Et finalement, ben parce que l'équipe, elle est représentative de la population, elle est connectée aux besoins. C'est des élus qui sont sur le terrain. Puis comme je le disais, pour moi, c'est une valeur absolument fondamentale pour tout élu municipal, être proche du monde puis les écouter.
Incroyable! Et surtout, vous avez réussi à respecter une parole, une promesse faite lors de votre campagne électorale. En ces temps difficiles au niveau économique,
oui, c'est vrai.
Vous aviez dit que vous n'augmenteriez pas le compte de taxes au-delà de l'inflation,
oui, on a réussi.
Qui était de 5,2 à 4,6%.
Ouais.
Alors quand même, vous travaillez afin d'offrir tous les services aux Montréalaises et Montréalais. Mesdames, toute une entrevue.
Merci.
Comme à l'accoutumée, Coconut Podcast, à la fin de nos entrevues, on a eu cette chance de faire le tour de la nation québécoise et d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations.
Oui.
Et vous, vous accordiez un respect incroyable, Madame Katawa, à Madame Christine Dion,
oui,
qui
ben oui.
elle-même a contribué à ce qu'on ait notre oui. pain blanc
voilà.
sur le drapeau de Montréal.
Oui.
Alors, vraiment, Coconut Podcast, on vous dit
incroyable. Vous travaillez comme pas possible. Alors, on est allé dans le coin de Madame Plante, en Abitibi-Témiscamingue, et en langue algonquine, nos frères et sœurs nous disent « Miigwetch ».
C'est vrai, « Miigwetch ».
Par la suite, on est allé dans le centre du Québec, on a rencontré nos frères et sœurs vers Odanak, en langue Abénaki, ils nous disent « Olé, olé ». Madame Plante, elle est souvent à Québec, elle rencontre M. Bruno Marchand, entre autres, qu'on reçoit à l'émission incessamment.
Que disent les Hurons?
Hurons Wendat.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Tehawek.
Tehawek.
Tehawek, écoutez. Puis là, ben, on est dans la région de Montréal, on a nos frères et sœurs des Premières Nations, en langue Mohawk, ils nous disent Niaouan. Et écoutez, nous avons Madame Katawa. Elle nous vient du Congo, Kinshasa. Les sapeurs, vous avez vu la sape, hein? Franchement, vous êtes habillés de manière incroyable. Eh bien, on vous dit un bon matondi. Merci.
Merci.
Madame Plante, merci à vous, Madame Katawa. Merci à vous. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec deux grandes dames. Elles nous ont reçus à la maison des citoyennes et des citoyens. À l'hôtel de ville de Montréal, je me prends un peu comme Larry King avec mon grand pupitre. Franchement, toute une entrevue. Je vous invite à les suivre sur les différents réseaux sociaux, mais surtout à aller voir ce qu'ils ont à vous offrir via le portail de Projet Montréal. Et pourquoi pas, peut-être vous serez candidat avec leur formation politique aux prochaines élections en 2025. Sur ce, eh bien, nous étions sur les ondes de Coconut Podcast. Comme j'aime bien vous le dire à l'accoutumée, on se revoit pour une prochaine émission. Merci, Niawen, au revoir.
Ciao.
Olé, 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 olé.